Radio U vous suit de A à U. C'est vous qui le dites, présenté par la rédaction de Radio U. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Radio U. Vous écoutez votre quotidienne d'info locale, c'est vous qui le dites. J'espère que vous avez passé un super week-end. Nous, on a pu profiter pendant ce week-end de la fin du festival No Border, où nous étions en direct samedi soir, accompagnés de Radio Mutine, Radio Boar et Radio Transistor. On a pu découvrir 4 artistes, Craze, Blik Bassi, Rally Lippi et Ndox Electric. Alors ce soir, on vous propose de revenir sur cette soirée de découverte musicale en vous repartageant l'émission de samedi soir.
Super, et toi Ricardo?
Très très bien, et bonjour Craze.
Ouais,
merci d'être venu avec nous sur ce plateau. Pour te présenter un petit peu, ce soir tu nous fais en gros du biniou expérimental de drone ambiant.
C'est pas facile d'y mettre une étiquette, mais je fais un solo de biniou en tout cas, ouais, c'est sûr, au cœur du public. Voilà, c'est un projet assez jeune. Moi non, mais le projet en lui-même, oui, qui a un an, qui tourne depuis un an. Et qui est basé sur la mise en valeur de l'instrument à la base, un instrument populaire que tout le monde connaît, mais quand même une certaine impopularité aussi. Et donc moi je m'appelle Tanguy Lecraze, en vrai, voilà, dans la vraie vie. Donc je suis pas du tout étranger de ce festival, j'en ai été programmateur un temps. Voilà, je sais plus, 2017-2018, puis 2020-2021, post-Covid. Et j'ai repris la musique il y a 2 ans et demi, quelque chose comme ça. Les gens me connaissent aussi plutôt pour du travail documentaire que j'ai pu faire, un film qui s'appelle Je ne veux pas être paysan, ou des clips, ou des choses comme ça. Et donc la musique, c'est un retour un peu sur le tard, et le retour à un instrument que j'avais aussi abandonné pendant longtemps, pendant 17-18 ans.
Et justement, oui, quel a été un peu ton parcours dans la musique avant, brièvement, si tu peux nous le rappeler?
Mon premier métier, c'est d'être régisseur. Donc moi, je suis encore régisseur. Je suis régisseur site aux Vieilles Charrues, par exemple. Voilà, j'ai été coordinateur du festival de No Border dans les premières années aussi, puis programmateur. Et j'ai été toute la période des années 2010. Donc je fais mes armes aux Charrues, je fais mes armes aux Trans. Je suis resté d'ailleurs aussi coprogrammateur de la scène Guernique aux Vieilles Charrues. Donc moi, c'est la mise en valeur de ces musiques, on va dire, minoritaires, qui m'a toujours un petit peu guidé. Et puis toutes les années 2010, j'ai été manager et booker de groupes que d'aucuns connaissent, qui sont déjà passés sur le festival ici, Super Parquet des Auvergnats, Chris Men et LM pour les Bretons qui connaissent Candadiscan, Beatbox, San Salvador, donc voilà. Et puis j'ai pris un petit tournant artistique, on va dire, ou en tout cas essayer d'exprimer des choses à un moment de ma vie. Là, j'ai sorti un film en 2018-2019, et ce film se termine, c'est un film à la première personne, et ce film se termine par une séquence où je sonne du biniou avec mon père, et ça m'a fait me rappeler que je jouais du biniou, que j'avais pas joué depuis.
Ouais, t'as été sonneur.
J'ai été sonneur jeune, en fait, quoi. Et puis à 20 piges, j'ai arrêté, quoi. Et donc à 40 ans, je me suis dit, tiens, en fait, voilà, maintenant que j'avais pris la parole, après avoir été au service des autres, pendant longtemps, des artistes et puis voilà, du public, il y a eu comme une évidence à retourner à l'instrument. Et donc là, je me suis dit, ok, si j'y retourne, très bien, mais j'ai pas forcément envie de refaire du trad. Je trouve ça très bien, mais j'avais envie de déporter un peu ma pratique. Et donc là, tout ça s'est un peu porté par quelqu'un aussi qui s'appelle Edroine Keravec, que d'aucuns connaissent, qui est un grand sonneur de musique contemporaine à la Cornemuse. Et donc quand j'ai décidé de reprendre l'instrument début 2020, et bien début 2022, pardon, et bien je suis allé travailler avec lui, j'ai eu une bourse, et donc où il m'a appris ce qu'est la musique répétitive sur un instrument type cornemuse. Il m'a offert de jouer une tournée pour un gros spectacle de rue du chorégraphe Jordi Galli, et puis il m'a surtout offert cette musique, puisque là, la musique que je joue ce soir, il y en a 2/3 qui sont écrites par lui, qui ont été écrites pour un autre spectacle, et que moi je me suis un peu approprié, auquel j'ai rajouté des bouts, auquel j'ai travaillé une conduite d'effet aussi autour de l'instrument, parce que moi je lui voyais à cette musique-là un endroit plus de musique amplifiée, de musique actuelle, en fait, quoi. Voilà.
Je me demandais justement, par rapport au processus de création de ce set-là précis, ça se passe comment? Parce que tu dis que ça a été composé en partie. Est-ce que c'est écrit? Est-ce qu'il y a une part d'improvisation?
C'est assez écrit. Les durées de parties sont pas écrites. En fait, il y a des motifs.
C'est vraiment la musique sérielle, quoi.
C'est ça. C'est des ostinatos, voilà. Et donc il y a un principe de pièce qui a été écrite par Erwan avec des passages et des jeux. Et puis derrière, moi je me l'approprie comme je l'entends aussi un petit peu. Et les durées sont pas les mêmes. C'est sur ce principe d'écriture là, on peut rajouter de nouvelles notes, un nouvel ostinato. C'est aussi écrit dès le départ dans la pièce qu'il y a une forme de liberté dans l'évolution qu'on peut lui donner, quoi. Voilà. Et moi, c'est surtout que derrière, donc je le remercie bien de m'avoir permis de jouer cette musique-là. Et par mon passé un peu plutôt vidéaste, je l'ai vu un peu comme une narration filmique. Et donc j'ai fait ce travail-là et je le vois vraiment comme une exposition, un climax, un développement et une résolution. Et donc moi, j'ai écrit une dernière partie qui est une résolution qui me manque. Okay. C'est un endroit que je raconte quelque chose d'intime, que je dis pas avec des mots, que je dis avec de la musique. Et donc voilà, pour moi, c'est un seul grand morceau de 27-28 minutes que je joue. Et j'ai souhaité le jouer aussi dans le public. La réticence au Bignou était telle quand j'ai fait les premières tournées de cette musique-là sur l'autre spectacle que je me suis dit que si j'allais jouer sur un plateau avec le quatrième mur à la distance du public, ça allait être compliqué et qu'il fallait se refaire par le corps médiateur de ce Bignou-là, quoi, en fait. Donc il y a une mise en scène que j'ai choisie, celle qui est centrale. Il y a un travail de corps aussi de sans appropriation aucune de presque derviche à certains moments, un costume très particulier aussi, et donc voilà, c'est ramener le Bignou au direct du public, quoi.
Et justement, oui, tu parles du public, il y a une certaine proximité avec les spectateurs, ouais. Pourquoi tu as fait ce choix-là d'être proche du public?
Pour ça, parce que je me suis dit qu'il fallait pas que je partais vraiment loin avec un Bignou et qu'il fallait être au plus proche d'eux et qu'ils aient pas le choix quelque part. Et quand j'ai fait la première tournée sur le premier spectacle, t'arrives avec un Bignou, les gens ils se bouchent les oreilles. Il y a quand même un truc de rejet parfois avec cet instrument-là. En me mettant dans la fosse, il y a quelque chose ils ont plus le choix quelque part et ils se font prendre par le son et ils sont au contact direct. Il y avait aussi une référence au sonore. Traditionnellement, les fesnos, les sonores sonnaient souvent au milieu de la ronde avec les gens qui tournent autour. Alors là, c'est un peu l'inverse. Moi, je tourne au milieu des gens qui observent. Mais il y avait essayé de retrouver un peu ces codes-là aussi, ramener à quelque chose de plus contemporain et de plus musique actuelle et musique amplifiée aujourd'hui, quoi.
Et justement, au niveau de l'amplification, j'ai cru comprendre que du coup, t'as deux micros,
ouais,
et ton sondier qui lui aussi, en fait, fait un travail en direct.
Ouais.
C'est ça. Tu peux nous expliquer un peu comment,
ouais,
ça marche?
Donc, du coup, tous les sons qu'on va entendre sont des sons joués en live. Il n'y a pas de sample, il n'y a pas de bande. Je me suis longtemps posé la question, est-ce que je voulais vraiment ramener cette composante dans la musique répétitive. J'entendais les micro-variations qu'on peut trouver dans la musique ambiante et qu'on peut trouver dans des endroits de musique techno, ambiante, voilà. Et je voulais vraiment hybrider le son du Bignou tout en le gardant central. Et je me suis posé la question, est-ce que des pédales, enfin tout un tas, ou une bande, j'avais commencé à enregistrer une bande avec des basses, etc. Et c'était assez contraignant. Et en fait, est apparue cette solution finalement la plus simple. J'ai deux micros HF et j'élabore une conduite avec les sondiers avec qui je travaille, des intentions qui m'intéressent. Alors, ça va être c'est des effets assez classiques, hein. C'est de l'octaveur, du double octaveur sur mon bourdon. C'est un harmonizer sur mon chanteur, le Lévriade. Enfin, voilà, c'est tout un tas de choses comme ça, des délais, des choses très simples, mais qu'on a élaboré, qu'on a posé selon mes envies et les intentions que je cherche à trouver. Il s'avère que le Bignou, selon où on le joue, les résonances qu'il procure, on entend d'autres choses, on entend des harmonies, on entend des fréquences différentes quand tu joues face à un mur, face à une vitre, dans une petite pièce, dans une grande pièce, que c'est un instrument de corps à corps qui est collé contre soi, et que j'avais envie d'amplifier ce truc-là et de le rendre au public d'une certaine manière. Et donc effectivement, il y a une conduite sur cette petite demi-heure de jeu Et donc en direct, le sondier avec qui je travaille va venir hybrider en fonction de ce qu'on s'est donné comme objectif le son du Bignou sur toute cette narration là musicale. Voilà.
Moi je voulais revenir un petit peu sur la tournée que tu as eu l'occasion de faire cette année.
Ouais.
Donc tu clôtures cette tournée ce soir pour le festival No Border. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, comment ça s'est passé?
Plutôt bien, en vrai. C'est ça. J'ai eu une très mauvaise expérience, voilà. Mais parce que je pense que la médiation autour du projet avait pas forcément été la bonne. En fait, il s'avère que sur la vingtaine de dates que j'ai fait cette année, il y a plus de la moitié qui était en dehors de la Bretagne. Donc il y a eu deux dates à Paris, il y a eu les Suds à Arles, il y a eu Dijon, il y a eu Tours, il y a eu, enfin voilà, tout un tas de villes, et il y a eu Jazz à Vienne, donc au sud de Lyon. Et là-bas, ça s'est pas super bien passé, parce que je pense que c'était pas le bon horaire, parce que je pense que les gens étaient là pour faire la fête et ils ont pas compris l'endroit où on me mettait, on m'a mis entre deux énormes groupes qui bastonnaient dans le théâtre antique de Vienne, quoi. Et là, pour la première fois, j'ai vécu un truc assez dur. Rentre chez toi, connard, et quelques huées. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est plutôt cool. Et c'est ça qui était étonnant. Jeudi soir, je jouais à Paris, à Gare Station Mine, et la réception est super, en fait, quoi. Les gens sont un peu hypnotisé. Enfin, moi, c'est ce que je cherche. Je cherche cet endroit de perte, un peu. Perte de repère, où finalement, par la répétition du son, par tout le traitement qui lui est donné à cet instrument, quand je commence à voir les gens fermer les yeux, à faire du slow banging, un peu là, je me dis, c'est bon, j'ai gagné. Je les amène à un endroit de légère transe, quoi, on va dire. Donc, dans l'ensemble, ça se passe quand même plutôt bien.
Et est-ce que tu trouves que, le biniou, qui est, on sait, un instrument plutôt breton, ouais, ça s'exporte bien, autre part, en France?
Moi, j'ai envie de le rendre normal. Voilà, je sais pas comment dire. En fait, le biniou, c'est une cornemuse, donc c'est la famille des cornemuses. Des cornemuses, il y en a, je crois, 150, quelque chose comme ça, dans le monde. Donc, on en trouve vraiment un peu partout. Elles ont été assez ringardisées, a fortiori en Europe, musique savante, les lumières et tout ce qu'on veut. Et donc, c'est un instrument qui n'est pas un instrument de soliste aussi d'habitude, c'est un instrument qui est plutôt un instrument de réponse, qui est toujours accompagné d'une bombe, enfin, qui accompagne une bombarde ou qui accompagne autre chose. Et je trouve que c'est le plus strident de ces instruments-là, là, qui est très aigu, qui est vraiment dans l'octave, dans le suraigu. Et voilà, je pense qu'en fait, ça, ou une cornemuse de Centre-France, ou une cornemuse de Pays de l'Est, enfin voilà, finalement, pourquoi pas, en fait, quoi. Voilà, la cornemuse écossaise, ça s'est exporté partout. Le biniou, il a sa place aussi. Il a une force, c'est ce saut continu. Il a une force, cette puissance de son. Il fait 90 dB de base sans même être sonorisé. Et puis, pourquoi pas. Alors, les gens, la biniouserie, quoi, les gens ont tendance à avoir le truc très trad, la gavotte et tout. Et voilà, ça les déroute un peu. Et je trouve que, dans l'ensemble, moi, le public que j'ai rencontré a vraiment ouvert la porte assez facilement à l'instrument, quoi. C'est ce que j'espérais, en tout cas. Donc.
Et donc là, c'est la fin de cette tournée. C'est la salle de la Carène. C'est quoi le lieu idéal pour toi pour faire cette représentation?
C'est ça.
C'est ça.
Ouais. Ça aime bien l'espace, quand même. Donc j'ai joué je sais que j'étais au Mama là à Paris dans un FGO. C'est un plus petit club et c'était plus compliqué parce que la pression sonore initiale de l'instrument, elle peut être un petit peu incommodante, un peu impressionnante pour le public. Que c'est un instrument qui aime bien les grands espaces, qui aime bien que le son tourne, qui aime bien que ça vive, qu'on fait un travail sonore aussi très fort avec Thomas Kéré là en l'occurrence, qui demande aussi de l'espace et un bon système son. Et moi, je l'ai un peu pensé. Donc, moi, j'ai travaillé longtemps au trance, dans le milieu des musiques actuelles, et je l'ai un peu pensé spécialement pour le réseau des musiques amplifiées et ce genre de salle. Et je l'ai un peu pensé pour pouvoir jouer avec le décorum habituel d'une SMAC dans le public, en utilisant la face, quelques rappels. Et c'est là que c'est le mieux quand c'est une belle salle comme ça de 900 000 places. Moi, je l'ai fait aussi en plein air. C'est plus dur. Je l'ai joué cette année, pas très loin d'ici, à l'acheter pour Club Rat de Passion. Là, c'était en plein air sur le quai et ça s'est aussi très bien passé finalement. Donc bon, voilà, y a plein de choses possibles, mais ouais, l'environnement maîtrisé comme celui-là aujourd'hui dans ce volume-là, ça reste quand même le plus simple.
Et merveilleux. Je pense qu'on s'approche déjà petit à petit de la fin de cette petite interview. Merci beaucoup d'être venu.
C'est moi.
Carrément. Et puis peut-être une toute dernière question avant que tu partes. Qu'est-ce que tu fais toi après cette tournée là?
Qu'est-ce que je fais après cette tournée? J'ai des choses assez chouettes qui vont s'annoncer. voilà, lundi, on peut le dire là peut-être, mais ouais, je suis en présélection des Inuits du printemps de Bourges pour la région Bretagne. Il y a des choses qui s'annoncent sur le Babel Med à Marseille, donc c'est, bah, on remet deux balles dans la machine et puis on va essayer de rebouger au national et voir peut-être un peu à l'international sur ce projet-là sur 2025. Et puis j'aimerais bien, mais pour 2026, préparer une seconde partie à cette demi-heure de jeu qui serait peut-être une partie qui irait au plateau et qui passerait de l'ambiante à quelque chose de plus techno, toujours autour du biniou et peut-être accompagné. Voilà.
Merveilleux, on a hâte d'entendre tout ça.
Merci.
Merci beaucoup, Kras. Merci beaucoup, Nicolas, aussi, d'avoir été là pour l'interview. Peut-être qu'on a le temps de se faire une petite pause musicale avant de recevoir Blic Bassi qui vont venir. Et puis, je rappellerai après, évidemment, tous les horaires, ce qui se passera sur scène tout à l'heure. Et voilà.
Bonne fin de session. Au revoir.
Merci. Nous sommes déjà de retour. Nous sommes toujours au No Border avec nos quatre radios de Radio Boa, Radio U, Mutine et Transistor. Et maintenant, je suis avec Mathurin et Natacha et on va recevoir les artistes Blic Bassi tout de suite qui joueront évidemment tout à l'heure dans la grande salle de la Carène. Salut.
Salut.
Bonsoir.
Donc ce soir, on est avec Blic Bassi. Donc vous êtes chanteur et compositeur et ce soir, vous nous présentez votre dernier album Madiba. Qui est sorti en 2023 et une version augmentée qui est sortie en mai 2024 sous le nom de Madiba Nimbodi. C'est un album d'afro-pop avant-gardiste. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce genre ?
En fait, c'est juste un mélange de mes influences, c'est-à-dire je suis quelqu'un qui est né au Cameroun, grandi là-bas et qui vit en France depuis 15 ans et ensuite, qui ces 10 dernières années a parcouru le monde entier et ce qui m'a amené à aller rencontrer des musiques différentes, des cultures différentes, des sonorités différentes et dans mon envie d'explorer un peu les espaces inexplorés par rapport à l'espace d'où je viens, c'est un peu ce qui donne la rencontre des mélodies issues et portées par la langue bassa, parce que je chante exclusivement dans cette langue. Et qui imposant une mélodicité aussi aux chansons. Et derrière, je fais des arrangements, des compositions où on peut trouver un peu de synthé, de déraillé, de son assez moderne et électronique. Quoi.
Votre album Madiba porte un nom bien particulier, parce qu'il veut dire l'eau en langue douala. Pourquoi un album sur le thème de l'eau? Pourquoi ce choix?
Parce que avant Madiba, j'ai fait un album qui s'appelait 1958. 1958 est un album qui avait été un tribute, c'est-à-dire un hommage aux combattants de la liberté et l'indépendance du Cameroun. Et après cet album, je me posais la question de savoir ce qui pouvait amener des gens à partir d'un espace donné pour aller imposer des systèmes de colonialisme, d'impérialisme dans d'autres espaces. Et finalement, je me suis rendu compte qu'à partir du moment où on sort de la chaîne de la grande famille du vivant, le chaos s'installe. Et donc, je me suis dit peut-être qu'il fallait rappeler aux humains que nous ne sommes qu'un élément du vivant et qu'il est urgent aujourd'hui, au vu de la réalité et au vu de l'actualité de notre monde, de reconsidérer un peu notre place qui est celle tout simplement d'un élément parmi la grande famille des vivants.
Alors, au niveau des titres qui sont présents dans l'album, on a dès le premier titre Bengue, donc dans Madiba, où vous parlez de ce que l'homme a fait à la terre, de la pollution des sols, de l'eau, et de reprendre le contrôle donc sur nos actes, un peu à la manière d'une fable moderne. Le titre du morceau, si on le traduit, ça veut dire regarde. Est-ce que vous pouvez, enfin, pourquoi vous avez choisi de commencer l'album par ce titre?
Dans ce titre, et effectivement, je parle des actions de l'homme sur notre écosystème et j'aime pour mieux illustrer les récits, parfois utiliser un peu un mot de fable, comme je l'ai fait sur ce disque. Et en fait, dans ce disque, Bengage, c'est un vieux qui raconte à son petit enfant et qui lui dit « Regarde ce que les humains ont fait de la terre. » Et il lui raconte l'histoire de la pluie qui jadis venait rendre visite juste derrière la maison et qui avait été tuée par les hommes.
Les titres de cet album, du coup, sont chantés en bassa, comme vous avez dit, mais le titre, lui, du coup, est en langue douala. Est-ce que vous pouvez peut-être nous dire pourquoi, du coup, une autre langue que le bassa?
J'appartiens à un espace où on a plus de 280 différentes langues, et comme langue officielle, le français et l'anglais. Donc l'une des raisons pour lesquelles je chante exclusivement en bassa, c'est pour amener les dirigeants de mon pays à peut-être commencer à enseigner les langues au moins les plus importantes, sinon je suis sûr que les 30 prochaines années, la majeure partie de ces langues va disparaître. L'idée en utilisant une autre langue, c'est aussi pour faire un clin d'œil et dire que lorsque je parle du bassa, je parle du douala, je parle du bamileke, je parle de l'ewondo, je parle de l'itone, etc. Mais également, c'est un geste hyper important parce que dans nos espaces, en fait, aujourd'hui encore, le tribalisme est hyper présent. Et là, notamment à l'approche des élections où les politiques instrumentalisent donc les habitants des différentes tribus pour pouvoir monter les uns contre les autres. Et donc, en faisant ça, c'est aussi des gestes pour dire que je suis peut-être bassa, mais je peux utiliser les mots douala, parce que en fait, bassa, douala et ton ne sont pareils.
Vous avez augmenté votre album en 2024 avec 4 nouveaux titres. Mm-hmm. Du coup, l'album s'appelle désormais Madiba Ni Nbondi, ce qui veut dire du coup l'eau et la fleur. Est-ce que dans ces 4 titres, il y a quelque chose qui évoque un peu plus du coup la terre, la fleur? Est-ce qu'il y a quelque chose d'un petit peu différent par rapport à la version 2023 axée plus sur l'eau?
Ouais, en fait, en rajoutant ces titres-là, je voulais rappeler le fait qu'au-delà de parler de l'eau, puisque j'ai décidé de parler de l'eau, mais en fait, je voulais parler de la grande famille du vivant. Mais l'eau est symboliquement essentielle puisque elle compose chaque élément vivant. Les humains sont composés de plus de 70% d'eau, les herbes, les fleurs, les animaux, etc. Et dans dans ma Madiba Ni Nbondi, je voulais donc rappeler que au-delà, lorsque je parle de l'eau, en fait, je parle du vivant dans son ensemble. Je parle de la fleur, je parle du merveilleux qui est juste près de nous, c'est-à-dire des herbes qui sont là, de l'arbre majestueux qui est là, que nous voyons, mais nous oublions que sous l'arbre, il y a des milliers, des milliards de bactéries et de champignons qui font que cet arbre-là puisse être debout. Comment est-ce qu'on rappelle ça à nos enfants aujourd'hui, à nos petits-enfants? Comment on rappelle aux nouvelles générations qu'en fait, autour de nous, le merveilleux est partout? Comment on arrive à changer des œillères pour pouvoir le voir? Et donc, en rajoutant Nbondi, en fait, je voulais parler d'un autre élément vivant pour tout simplement rappeler la poésie qui nous entoure.
Et donc, du coup, pour parler de poésie, de tout ce qui nous unit, c'est peut-être pas anodin d'avoir apporté 4 nouveaux titres avec dont 2 featuring, j'imagine.
Oui, en fait, je voulais partager aussi avec des artistes que j'aime beaucoup et avec qui je partage dans le songwriting une manière de composer, d'écrire qui me touche énormément, notamment Raïx, qui est un super artiste et très bon ami, Yamé pareil, que je connais très bien, et c'était vraiment des espèces de collaborations plus pour partager cette histoire, partager un peu et rappeler qu'il faudrait que nous soyons peut-être beaucoup plus nombreux à rappeler le fait qu'il faut vraiment que nous retrouvions la famille du vivant, la grande famille du vivant, et que chacun de nous reprenions la place qui est la nôtre, c'est-à-dire le réceptacle qui reçoit et passe à l'autre. Quoi.
Bah, merci Blick Bassi pour cette interview, d'avoir été avec nous ce soir.
Merci beaucoup Blick Bassi, on approche déjà donc de la fin.
Merci
et beaucoup. On diffusera ton live du coup sur les radios tout à l'heure. Une petite dernière question, à quoi on peut s'attendre sur scène de ta part tout à l'heure? Comme genre d'ambiance, comme genre de... Ou alors tu veux pas spoiler, c'est la surprise.
Non, si. Je trouve que ce que j'essaie de proposer, c'est juste la sincérité. Je pense qu'on l'oublie dans le monde dans lequel on est aujourd'hui. En tant qu'artiste, on se bat à essayer de faire de la performance et tout. Et on oublie qu'en fait, les gens, ce qu'ils viennent, c'est nous écouter. C'est se connecter avec nous. Et qu'en chacun de nous vit un Wi-Fi qui est endormi complètement. Comment est-ce qu'on arrive à réveiller ce Wi-Fi-là afin que nous puissions nous connecter? Donc, ce que j'essaie de faire sur scène, c'est à ma manière d'essayer de faire oublier la langue. Et tout simplement connecter à travers mes vibrations, à travers une émotion, que je me connecte à tous ceux-là qui sont présents et qui se connectent à moi aussi.
Magnifique. Merci beaucoup, Blick Bassi.
Merci.
Sur ces belles paroles, on va se faire une petite pause musicale, je pense. Et puis après, on va discuter un petit peu avec vous du reste de la programmation de la soirée, du festival en lui-même et de plein de belles choses. Direct sur Radio U 101.1 FM, Transistor 100.4 FM, Mutine 103.8 FM, le tout aussi disponible sur internet évidemment avec Radio Boa aussi en DAB+. C'est magnifique, on a reçu Kraz tout à l'heure et on a reçu ensuite Blick Bassi pour parler de cette superbe soirée ce soir à la Carène, cette soirée un peu finale mais pas vraiment parce qu'il reste des événements demain du côté il me semble du Vauban. D'ailleurs, ah oui, demain ce sera à 17h au Vauban, ce sera du Rebetiko, je crois. C'est des chants traditionnels de Turquie, me semble-t-il, pour finir ce délicieux festival No Borders. Je rappelle tout de suite les horaires pour les gens qui veulent se pointer tout à l'heure. Les portes ouvriront donc à 20h. Il y aura des DJ sets dans le hall de la Carène. Et puis Blik Bassi, qu'on a interviewé, sera sur scène donc dans la grande salle de 20h30 à 21h30. Et dans vos écouteurs, si vous écoutez Radio U ou Transistor ou Radio Boa, pas Mutine, parce que le live ça s'arrêtera du côté de Mutine à ce moment-là, pour laisser la place à une émission. Ensuite, DJ 7, Kraz sera de retour pour 22h10 à 22h40 sur scène. Puis Aïchoucha, que malheureusement, donc le projet de Khalil Epi qu'on ne peut pas recevoir en interview, mais dont on va vous parler très bientôt, de 22h45 à minuit. Et puis ce sera Nord Electric qui clôturera la soirée jusqu'à 1h30. Et Zoé m'a rejoint de Radio U pour parler justement du projet de Khalil Epi qu'on ne peut pas recevoir. Salut Zoé.
Salut.
Comment ça va?
Ça va très très bien, et toi?
Eh ben ça va très bien, et justement on est faire ça, voilà, des fois on peut pas recevoir tous les artistes, et c'est des créneaux très très réduits qu'ils ont, mais on va vous aussi vous présenter comme on peut le projet que vous pourrez peut-être entendre ce soir si vous venez du côté de la Carène de Khalil Epi. Ça s'appelle Aïchoucha. Et c'est de la musique, tu me dis si je me trompe, c'est quelque chose de plutôt électro-acoustique, avec beaucoup de field recording, beaucoup de musique traditionnelle tunisienne, qui vient se réapproprier de manière un peu plus électronique, n'est-ce pas?
C'est ça, et c'est présenté comme sous forme de film-concert, il me semble, donc avec des écrans qui seront présents avec lui sur scène pour montrer vraiment, donc c'est une espèce de reproduction cartographique de la Tunisie qu'on peut voir sur les écrans, et qui est aussi du coup retranscrit musicalement, donc tout ça fait électroniquement, et du coup c'est vraiment une expérience qui est voulue que totalement immersive par l'artiste. Donc il mélange totalement la musique électronique qui est vraiment travaillée et pour être réalisée avec les vidéos. Donc c'est quelque chose qu'il a réalisé avec des vidéos et des enregistrements faits comme dans un road trip dans la Tunisie, donc son pays d'origine. Et donc il y a tout un travail de technique et de vidéo sur ce projet, donc voilà, si t'as quelque chose d'autre à ajouter.
Eh bah ben oui, c'est super intéressant. Je pense qu'on s'est tapé le même court-métrage de Fatma Benaïssa pour préparer cette interview, où justement il parle en effet de tout ce côté audiovisuel qu'il a. Moi, il y a un côté qui m'intéressait beaucoup dans sa musique, c'est cet aspect qu'on a dans pas mal de mouvements de la musique contemporaine et actuellement. C'est un aspect très d'archivage et de préservation, et c'est assez intéressant parce que c'est là qu'on voit un peu le fil rouge de cette soirée peut-être se dessiner, peut-être que je le projette et que je dis n'importe quoi, mais avec l'artiste précédent qui était juste là, on parlait un peu de préserver la langue. Avec Kraz, on parlait aussi un petit peu de musique traditionnelle qui sont plus tant que ça à écouter et qui viennent être remodernisées, réappropriées. Et bah, c'est exactement dans cette démarche-là, il me semble, que s'inscrit ce projet donc Aïchoucha de Khalil Epi. D'ailleurs, Aïchoucha, c'est le nom, me semble-t-il, de sa grand-mère, et il a choisi ce nom de projet parce que c'est la première personne qu'il a enregistré avec une sorte de zoom, quoi, un enregistreur quand il était petit. Donc c'est son tout premier field recording, et c'est complètement, en effet, ça représente très très bien, je trouve, le style de musique qu'il fait. Quelque chose de d'ancien, quelque chose de précieux, quelque chose de traditionnel qu'on va aller se préserver en le samplant, en le retravaillant en direct et en faisant de la musique électronique avec. Peut-être que tu as des choses encore à ajouter, je ne sais pas.
J'avais juste sur le sujet à rajouter que Khalil Epi, il me semble qu'on se prononce Khalil Epi, parlait du fait que pour lui, utiliser la musique traditionnelle arabe dans ses chansons, ça permet un peu de remettre en valeur, et que c'est ce qui, lui, utiliser ces chansons-là dans la musique électronique, c'est ce qui pouvait peut-être remettre au goût du jour et peut-être sauver un peu la musique traditionnelle, de moderniser ça et de montrer que c'est toujours vivant et que c'est toujours là. Je crois que c'était un peu son idée aussi, en incorporant cette musique traditionnelle dans la musique électronique.
Mmh. Et c'est voilà, bah c'est magnifique. C'est un peu ce qu'on disait. C'est un peu, j'ai l'impression, une des thématiques qui revient souvent sur ce festival No Border quand on parle de justement de d'union entre les musiques traditionnelles et les musiques électroniques, électroacoustiques, les musiques actuelles. Donc voilà, on a hâte de voir son live. Moi, j'avais plein de questions à lui poser. J'essaierai de lui poser à la fin de son concert. Peut-être. On vous invite en tous les cas à écouter sa musique si vous pouvez pas vous rendre au concert. Et puis peut-être qu'on a une petite illustration musicale à vous faire écouter en attendant tranquillement. Merci Zoé qui était avec moi pour parler du coup de ce projet de Rallye les Pieds. Et puis tout de suite on va recevoir Mathilde qui est rejoint aussi par Pierre-Louis qui vont nous parler de la vraie vie et de comment c'est difficile.
Oula, ça c'est du lancement, Ricardo. Désolé. Merci beaucoup. Bon, déjà bonsoir Mathilde.
Bonsoir.
Donc Mathilde, t'es venue ici pour nous parler un petit peu de la situation préoccupante au niveau de la culture. Alors là, ce qui préoccupe un petit peu tout le monde dans le milieu de la culture, c'est les annonces de coupes budgétaires, etc. Et notamment les copains qui sont du côté des Pays de la Loire qui sont en train de prendre assez cher. On nous annonce une coupe de ce côté-là de 73% dans le budget global de la culture. Alors en fonction des secteurs culturels, il y en a qui sont plus ou moins impactés. Mais Mathilde, toi vous, parce que vous êtes plusieurs à tenir un stand aujourd'hui dans le hall de la Carène, pour sensibiliser un petit peu le public à ça, l'idée c'est quoi? C'est de dire attention, il se passe ça chez nos voisins, ça peut arriver, il faut monter au créneau avant que ça arrive. C'est un peu l'idée.
Oui, tout à fait. En fait, on s'est rassemblés entre acteurs de la culture du territoire il y a une dizaine de jours, suite à toutes les informations qui circulaient sur les coupes drastiques auxquelles font face les copains, comme tu dis, donc de la région Pays de la Loire. C'est vrai qu'on est assez préoccupés, tous au niveau national, pas qu'en Pays de la Loire, mais par toutes les coupes qui peuvent arriver de près ou de loin aux acteurs culturels. Et donc on s'est dit comment, donc c'est en effet le mouvement Pays de Brest pour la culture, qui est un mouvement qu'on avait créé au moment des municipales de 2020 pour sensibiliser les élus, en tout cas les candidats aux municipales sur les questions de politique culturelle. Et donc on l'a, ressorti du tiroir, si je puis dire, pour se mobiliser et voir dans un temps court là comment on pouvait en tout cas se mobiliser sur le terrain, qu'est-ce qu'on pouvait faire faire concrètement de notre côté, même si c'est pas toujours évident en fait de lutter en tant qu'artiste, en tant que représentant d'artiste, parce que moi je suis chargée de production d'une compagnie de théâtre ici à Brest.
Et, on peut dire le nom quand même de Des Réseaux.
Oui, la compagnie Des Réseaux, tout à fait. Et donc on s'est dit, bon, pourquoi pas sensibiliser en effet les publics, en tout cas les Brestois, les Brestoises, à ces questions, parce qu'on s'est dit que nous, dans le milieu culturel, on en parlait beaucoup, mais dans ce vase clos-là, si je puis dire, et en fait, peut-être que les gens ne sont pas forcément au courant de ce qui se passe et de quel impact ça va avoir aussi sur leur vie, en fait, si ces coupes ont bien lieu, à savoir moins d'accès à la culture, moins de diversité culturelle. Voilà, c'est assez catastrophique pour toutes les personnes qui, de près ou de loin, s'intéressent à la culture.
Oui, il faut rappeler qu'effectivement, le monde de la culture est quand même largement subventionné. Si on perd ces subventions, ça va être tout de suite être beaucoup, beaucoup plus compliqué. Est-ce que là, c'est la première action que vous faites ou vous êtes déjà allé à la rencontre un peu du public sensibilisé ?
Ici à Brest, oui, c'est la première action qu'on fait. En fait, on s'est mobilisé là toute la semaine sur le festival No Border. Donc, il y avait aussi le stand au Quartz pendant le reste de la semaine. Et là, donc, ce soir, on est à la Carène. On se relaie comme on peut. Et après, on verra en 2025 comment on peut continuer à se mobiliser. Je pense que il y aura des choses à faire sans doute. Voilà, et en effet, pour compléter les faits que tu as rappelés tout à l'heure, c'est vrai que ça part de donc l'annonce de la présidente de Région Pays de la Loire qui a annoncé vouloir couper drastiquement dans le budget culture en 2025, donc à savoir 73% du budget, donc c'est le budget culture, mais aussi le budget du monde associatif plus globalement. Notamment voilà, des associations qui se mobilisent pour lutter contre l'égalité femmes-hommes, pour l'égalité femmes-hommes, pardon, et les radios associatives, comme tu le mentionnais tout à l'heure en off. Mais c'est vrai qu'au-delà de la région Pays de la Loire, on est tous, en tout cas dans le milieu culturel, inquiets de comment ça peut ouvrir une brèche pour les autres régions. Et c'est vrai que là, par exemple, il y a un article du Canard Enchaîné qui est sorti cette semaine, je crois, qui disait que potentiellement, il y aurait également des coupes en région Île-de-France et région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, c'est vrai que c'est très inquiétant. Et bon, pour l'instant, voilà, je préfère dire aussi qu'au niveau de la région Bretagne, on est a priori assuré que les subventions ne baissent pas en 2025. Mais il est vrai que l'État demande à tout le monde de faire des efforts budgétaires. Et le problème majeur derrière tout ça, c'est qu'en fait, les collectivités telles que les régions, mais aussi les départements, n'ont pas de compétences obligatoires pour la culture. Donc, ce qui fait que ça peut être une variable d'ajustement.
Vous avez lancé une pétition, je crois, en ligne, c'est ça ? On peut la retrouver, on peut la signer ?
Ouais, c'est pas nous qui avons lancé la pétition, c'est une directrice de théâtre qui opère donc en région Pays de la Loire, qui s'appelle Catherine Blondeau, et qui a été signée par plus de 100 000 personnes depuis. Et donc, en effet, on peut la retrouver en ligne sur change.org. Voilà, donc je vous invite à la signer en masse parce que c'est très important pour que ça remonte aux élus et au futur gouvernement.
Eh ben merci beaucoup Mathilde d'avoir été avec nous, merci beaucoup de te battre aussi pour nous toutes et nous tous, et puis un petit bisou quand même aux copains des radios associatives des Pays de la Loire qui ont pris très très cher, puisque eux c'est carrément 100% des aides régionales qui sont coupées pour 2025.
Bah oui, absolument, vous avez toute notre force, et puis on espère que la situation va s'améliorer pour tout le monde, parce que c'est quand même assez chouette de pouvoir travailler dans le milieu de la culture en France, quoi. Peut-être qu'on va continuer un petit peu doucement si on a une pause musicale qui est disponible, parce qu'on attend un peu des nouvelles des derniers artistes pour l'interview.
Qui vont arriver, a priori. On a juste le temps de passer un petit extrait musical.
Mais oui. si on a un petit son, voilà, tranquillement. Et puis après, ce sera la dernière interview. Et après, vous pourrez entendre évidemment le live donc de Big Bassy. Une heure de live en direct. Sauf vous, les copains de Mutine. Bisous, les copains de Mutine. C'est bientôt la fin de cette émission spéciale No Border. Toujours en direct de la Carène pour cette émission spéciale No Border avec tout le monde de Radio U sur le 101.1, Mutine sur le 103.8, Transistor sur le 100.4, en FM et sur internet la totalité de ces radios, et Radio Boa en DAB+, et on a été rejoint par le groupe Endor Electric. Ça va être absolument merveilleux. On vous dit bonjour.
C'est électrique.
Et ce sera Camille de Transistor ainsi que Nicolas de Mutine qui vont faire cette interview. Je vous dis bonne chance.
Exactement. Bonsoir Endor Electric. On est ravis de vous recevoir sur ce plateau dans le cadre du festival No Border pour parler de votre musique. Vous montez sur scène dans quelques heures déjà. Est-ce que vous êtes content d'être là ce soir?
Bien sûr.
Bien sûr.
Oui. Et puis Brest est dans nos cœurs depuis longtemps.
Ouais, vous étiez programmé au Transmusical de Rennes en 2023. Là, vous êtes de retour en Bretagne pour le festival No Border. Ce soir, c'est la dernière date un peu de votre tournée bretonne. Enfin, là, vous avez enchaîné. Vous étiez à Fougères jeudi, à Lorient vendredi. Pour rappeler rapidement ce que vous faites, juste très vite, vous avez sorti un album chez Bongo Joe en 2023. Et vous mélangez le rock et la musique traditionnelle Wolof. Alors, ma première question, tout d'abord, c'était qu'est-ce qui a pu changer là dans votre musique entre les trans l'année dernière et puis là cette année, est-ce que la formation, le groupe a évolué et puis est-ce que le son a changé?
Je crois qu'il y a un peu plus de guitare.
Oui. Et de basse aussi peut-être.
Et de basse. Bah, tout a évolué, bah, beaucoup de choses. Dans le répertoire, il y a des morceaux nouveaux qui auraient pu faire qui pourront faire un deuxième album. Et puis surtout, on a appris à maîtriser le son. Je crois qu'au Transmusical, c'était très très dur. C'était chouette, mais ça résonnait beaucoup. C'est pas l'endroit idéal pour envoyer l'enfer.
Mais c'était dû à la salle, à la technique.
Oui, ça résonne beaucoup, ça mais c'est un super oui. festival.
Vous étiez dans le, oui, dans un hall.
Dans le grand hall, ouais, ah, oui. le 7, je crois, okay. si j'ai bonne mémoire.
Je peux pas dire plus. Je n'ai pas une bonne mémoire.
De quoi tu te souviens, toi, Kumba de Rennes?
Seulement que les répétitions, mais là, dès qu'on a joué, je ne me rappelle plus parce que ça fait un an déjà.
Ouais, on a beaucoup bougé entre temps.
Ouais, on a beaucoup bougé. Ouais.
Moi, je me demandais, oui, pour votre musique, vous avez fait pas mal de travail de recherche, donc vous êtes parti visiter un petit peu du pays et des villages. Comment ça se passe, votre travail de recherche, et en quoi ça consiste?
Alors, c'est très long. Ça démarre des années même avant d'aller dans un pays. C'est d'abord énormément lire sur des rituels très précis. Donc Jana et moi, on aime bien quand il y a un rôle social. Donc c'est pour ça que ce sont souvent des rituels thérapeutiques. Et là, c'était donc le ndop, hein, qui est quelque chose de maudit hein, au Sénégal. Ça fait peur à tout le monde, sauf aux gens du ndop. Quand tu parles du ndop au Sénégal, tout le monde s'enfuit. Et bien sûr, la chose la plus dure, c'est d'entrer. Une fois avoir lu, pour pas arriver comme des touristes, il faut prévoir beaucoup de temps. Donc, c'est pas en 15 jours, c'est pas en un mois, mais c'est en vraiment plusieurs mois, si ce n'est des années. Et c'est d'abord entrer. C'est peut-être le plus dur, en fait. Surtout dans le ndop, ça a été vraiment compliqué. Et puis après ça, c'est juste vivre avec eux, surtout pas à l'hôtel, surtout pas. Donc c'est vraiment vivre avec eux pendant des mois, des années, et petit à petit se faire apprivoiser.
Quand vous dites eux, vous parlez des musiciens qui pratiquent le ndop et puis cette cérémonie-là.
Des maîtresses guérisseuses, des maîtres guérisseurs, des assistants et de tous les griots. Enfin, surtout à la base des maîtresses guérisseuses, c'est quand même elles qui commandent, et les maîtres guérisseurs aussi. Mais c'est quand même un rituel très très féminin. Donc de leur faire voir que vous n'êtes pas les toubabs habituels qui vont juste prendre 2-3 photos quand ils vont couper la tête de la vache ou l'égorger ou des trucs comme ça. Mais et puis c'est pour ça que il faut lire avant, parce que tu te fais un vocabulaire qui est ton passeport. Tout de suite, les gens ils comprennent que tu t'es pas comme un touriste, quoi.
Et comment vous avez été accueilli justement par ces communautés?
Moi, tu peux raconter comment est-ce qu'on est entré?
C'était, comme disait François, c'était l'expérience la plus dure en termes de rapidité en rentrant en étant accepté, quoi. Parce que les premières, un mois et demi, on s'était donné d'ailleurs une deadline. On avait donné une deadline et on s'était dit, si on n'arrive pas, on fera un plan B. On avait déjà un plan B. Et on était dans un taxi et on parlait. Au fait, on interpellait tout le monde. Et n'importe qui, on demandait, est-ce que vous le connaissez? Et on était dans un taxi et François demande au chauffeur de taxi, est-ce que vous connaissez quelqu'un? Écoute, j'ai mon ancien collègue du lycée qui est devenu maître guérisseur à Roufisque. Je lui passe un coup de téléphone. Il appelait et monsieur lui a dit, au fait, j'ai rêvé, ça sonne beaucoup histoire à Toubab, mais il a dit qu'il avait rêvé de Toubab qui allait se présenter à lui. Sauf que le maître guérisseur, lui a donné l'heure et la journée, le jour où on était atterri. Et là, on s'est dit quand même.
Et donc,
intéressant.
Il nous a donné rendez-vous. On était à 600 km de là, on était dans le nord. Et on a dit au chauffeur de taxi, t'es libre là? Parce qu'il nous a invités en fin d'après-midi, c'était le matin. Et en fin d'après-midi pour assister au premier rituel. Pour nous, c'était incroyable parce que d'habitude, c'était non, 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 absolument pas. Et donc, on a dit au taxi, t'es libre, on continue, quoi.
Voilà.
Et après ça, on s'est connus. Et après ça, c'est la partie la plus belle, en fait. C'est là où tu demandes aux gens qu'est-ce que ce rythme signifie, que signifient les paroles, bien sûr, pourquoi les couleurs, pourquoi
les cahiers sur le sable. En fait, il y a pourquoi tellement de choses. Et c'est aussi pour ça que pour nous, les personnes les plus importantes au départ sont les maîtresses guérisseuses, parce que ce sont elles qui peuvent nous donner réponse à les petites questions qu'on a par rapport à ce qu'on a étudié avant et aux petits doutes qu'on peut encore avoir au moment pratique, au moment actuel, quand on est là et on les étudie de plus proche.
Et puis après ça, techniquement, bah tu demandes bien sûr l'autorisation à tous. Et un rituel, ça peut aller de 60 personnes à 200. Donc avant le rituel, tu essaies de demander. En général, tu demandes aux maîtresses guérisseuses et puis elles font le dispatch. Et on a commencé à filmer. Alors d'habitude, parce que ça devient un film tout d'abord, avant de devenir un groupe. Et le film, c'est plus ou moins 600 heures de tournée pour une heure et quart de film, en essayant de prendre les moments les plus significatifs pour le rituel. Parce qu'un rituel, c'est bien sûr un arc de temps, quoi. Tu démarres, puis tu redescends, puis tu redémarres, puis tu redescends.
Et ce rituel, il a un rôle précis, un peu thérapeutique. C'est quelque chose qui est important au Sénégal, ou c'est un peu une niche
C'est une niche de la communauté Lébou, c'est vrai, mais c'est énorme, c'est quand même énormément de gens. C'est aussi une économie fermée, c'est-à-dire que les griots sont payés, les maîtresses guérisseuses sont payées, tout ça coûte très cher. Et puis ça fait vivre en fait économiquement quand même une partie. Mais le rôle surtout, c'est oui, c'est un rôle thérapeutique. Alors bien sûr, quand tu vas voir une maîtresse guérisseuse et que t'as la jambe cassée, elle te dit « mais gros connard, va-t'en, c'est pas chez moi que ça se passe, quoi. Tu vas à l'hôpital. » C'est pour toutes les maladies. Alors justement, c'est ça qui est beau au Sénégal, c'est que depuis 15 ans, les tradipraticiens, ils appellent ça comme ça, donc les maîtresses guérisseuses, maîtres guérisseurs, sont intégrés à l'université de Dakar, mais dans les chaires de psychologie et psychiatrie. Donc c'est tout le mal-être. C'est-à-dire quand tu te sens mal, triste, désespéré, suicidaire, ou que t'as toujours mal à la tête parce que c'est psychosomatique, etc., etc. C'est la manière occidentale de le voir, hein, ça. C'est moche d'en parler comme ça, mais voilà, comme ça c'est plus clair.
Donc c'est une forme de psychodrame d'une certaine manière.
Alors c'est pas un exorciste, donc c'est un endorciste, c'est-à-dire que ton esprit te possède et c'est pour toujours, et de temps en temps quand tu es mal, triste ou beaucoup plus mal, ben il demande ton corps, et donc la musique arrive, les musiciens arrivent, donc les griots, les assistantes, un dup, donc ça s'appelle comme ça, hein, donc un rituel, un dup est organisé, et les maîtresses, la maîtresse guérisseuse principale va décider combien de temps ça va durer. Des fois, il y a un préventif qui est de 2-3 jours, et puis des fois, quand ça guérit pas, et ben, ça peut durer une semaine, 10 jours, et ça devient de plus en plus cher pour la famille. Et tout dépend de la maladie, tu vois, une maladie, une tristesse ou du tédium vitae passager, ça peut être juste une ou deux poules à égorger, mais si c'est plus grave, après ça il y a le mouton, si c'est vraiment très grave, il y a le bœuf. Et plus ça dure dans le temps, plus ça coûte cher, parce qu'il faut nourrir les griots, il faut nourrir les assistantes, les maîtresses, les maîtres, et les loger. Donc ça coûte super cher.
Moi justement, je voulais savoir dans le dup, donc la musique, elle joue un rôle. C'est quoi la place de la musique dans le rituel?
Primordial, oui, c'est une catharsis. Hein, c'est grâce au volume assourdissant des sabars. Le sabar, c'est l'orchestre de percussion. C'est pas vraiment une percussion. C'est dedans, t'as plusieurs types de percussions, le bang bang, la tama, enfin plein de choses. Le tiol. Et puis, et c'est cet orchestre de percussion qui va emmener les gens ailleurs avec. Donc, bien sûr, ce qui est très important, les chants de la maîtresse guérisseuse et les réponses des assistantes. Alors, c'est d'une violence sonore, tu vois, à la carène, si tu emmenais un vrai end-up, ben, il pourrait jamais jouer parce que tout de suite, ça dépasserait les 120 dB. C'est juste un... Alors, il n'y a rien d'amplifié, bien sûr, heureusement d'ailleurs, mais les maîtresses guérisseuses, celles qui lancent la première voix, maintenant, depuis une vingtaine d'années, elles ont un mégaphone, parce que sinon personne ne les entend, quoi. Et puis tu peux avoir 20 percussions, mais en fait des fois tu peux en avoir 40. C'est juste... Alors Jana filmait dans le public, moi je filmais dans les percussions, tu vois, j'avais l'oreille sur les... Ça a été effroyable pendant des mois, c'était génial.
Et que, comment vous avez décidé d'intégrer ça à votre musique? Et puis comment après vous avez... parce que ouais, on le disait tout à l'heure, vous avez sorti un album chez Bongo Joe. Il s'est construit comment cet album?
C'était pas notre volonté directe.
C'était vraiment notre volonté. C'est-à-dire que, alors, à la base, ce sont surtout des recherches. La première recherche était au Xinjiang avec les chamans ouïghours. La deuxième, c'était un rituel adorciste aussi du fin fond du Sahara. Le troisième film, c'était avec les Alevis au Kurdistan. Ça, c'est donc le quatrième. Et c'est quand les gens de là-bas ont une velléité de faire un groupe. Nous, ça nous branche jamais, parce qu'on sait qu'on va au-devant des problèmes, surtout d'argent. Parce que bien sûr, en Afrique, surtout quand t'es blanc, c'est une malédiction, ils voient en toi un portefeuille sur pattes, quoi. Et ça tombe très vite, en fait, dans l'opportunisme. Et donc, on fait des réunions, on leur parle, on dit, vous savez, c'est pas... les millions tombent pas de l'Europe, en fait, de l'Occident. Il faut s'attendre à ci, à ça, à ça. Les choses sont déclarées. Donc, quand ils vous disent que vous allez être payé 300 euros, ça va être la moitié, parce qu'il faut payer les charges, etc., etc. Et il faut expliquer tout ça à des gens qui n'en ont absolument rien à foutre, en fait, et puis qui se l'imaginent pas. Et aussi tout le reste, quoi, les horaires, les choses qu'il y a, le public, les gens de la salle, les programmateurs, il faut tout respecter, tout ça, être ultra à l'heure, ultra pro, et blablabla.
Au final, vous l'avez fait quand même.
On le fait quand même, et on le fait toujours en freinant des cas de fer. Mais parce qu'en fait, qu'est-ce qui nous intéresse à Jana et moi? C'est la musique.
Oui, oui. Et puis, François l'avait dit, c'est un film. Alors, quand on termine notre travail de recherche et un filmement, c'est notre volonté de filmer parce que ça nous permet d'avoir une sorte de mémoire visive qui nous permet de mieux travailler. Et alors, quand on leur montre, on leur fait écouter les morceaux, eux, la plupart des fois, ils nous disent, mais c'est génial, mais il faut y jouer, tout ça. Et à ce moment-là, puis on est très empathique, François et moi, et on se laisse prendre par les émotions, et c'est un plaisir de le faire, de toute façon. Et c'est comme ça qu'on se retrouve ici. On se retrouvait ici dans le passé avec les Frikia électriques, c'est pareil, la même histoire. Voilà.
Bon merci beaucoup. On va se laisser bientôt. Là, il y a le concert de Blik Bassi qui vient de commencer, et puis on va le diffuser en direct. Merci à vous pour cet entretien, et puis bon courage pour tout à l'heure.
Merci à vous.
Vous restez, non?
Obligé.
On verra.
Question idiote. Merci énormément. Ciao, ciao.
C'était le festival No Border, la soirée de samedi soir qui a eu lieu avec Radio Mutine, Radio Boar et Radio Transistor. Pardon. Et nous, on se dit au revoir pour cette soirée, mais on se retrouve demain, même heure, sur Radio U.